Conférence en Corée du Sud, du 13 au 15 octobre 2023, la manifestation de la vie éternelle. Je pense que dans cette réunion, nous allons utiliser le résumé. Le point 2. La lumière et l'amour, l'évidence de la vie éternelle. En fait, le monde entier aujourd'hui, pas seulement aujourd'hui, mais depuis la chute de l'homme, est dans les ténèbres. Le monde entier. Si tu lis toutes les Écritures, après la chute d'Adam et d'Ève, après qu'ils aient été trompés par le serpent, le péché est entré. Lisons Romains 5. Romains 5, verset 13. Non, commençons par le verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Puis verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Ainsi, quelque chose s'est passé dans le jardin d'Éden. Quelque chose de terrible. Mais il faut réaliser que dans cet univers, il y a une guerre qui a lieu entre Dieu et Satan. Et nous, les êtres humains, sommes au centre de cette guerre. Beaucoup de gens posent la question. Comment ça se fait que Dieu laisse exister Satan, le serpent, et ne s'en débarrasse pas? Dieu s'en débarrassera, mais pas tout de suite. Parce que dès le début, avant la fondation du monde, Dieu a choisi l'homme. Dieu a choisi l'homme. Dans Genèse 1, il nous a dit que lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a commandé de régner et d'avoir la domination sur toute sa création. Quelqu'un doit régner sur la création de Dieu, n'est-ce pas? Et la Bible nous montre qu'avant que l'homme, que Dieu crée l'homme, le monde pré-adamique avait été confié à l'archange pour qu'il y règne. Bien sûr, la Bible ne nous montre pas cela en direct. Mais, comme nous avons vu l'autre jour, après que Dieu ait créé les cieux et la terre, qu'est-il advenu? C'est devenu un tohu-bohu. Ça veut dire que c'est devenu chaotique. Mais Dieu n'a pas créé ce chaos. Quel verset me montrerais-tu que Dieu n'a pas créé la terre comme un tohu-bohu? Bien sûr, on a lu Job. Mais où d'autre dans la Bible pourrais-tu me montrer quelqu'un? Ésaïe, qui a dit Ésaïe? Toi? Ah, Chu Chang, très bien. Ésaïe 45. Alors, venons à Ésaïe 45. Ésaïe 45. Seigneur Jésus, regardons. Premièrement, verset 12, il dit, c'est moi qui ai fait la terre et qui ai sur elle créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. Ainsi, Dieu a créé tout ici. Mais si on continue à lire, laissez-moi voir où c'est. Verset 18. Car ainsi parle l'Éternel. Vous savez, notre Dieu est un Dieu qui parle. Tout est écrit. Si tu écris quelque chose que tu as dit, ça veut dire que ça demeure, c'est la vérité. Sinon, Dieu ne l'aurait pas écrit. Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux. Il est Dieu, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie. Qu'il a créé pour qu'elle ne soit pas déserte ou en vain. Ce mot en vain, c'est comme le chaos, c'est le même mot. Je ne sais pas pourquoi cela a été traduit par en vain, mais ici il est dit, il ne l'a pas créé comme un chaos. Ce n'est pas un tohu-bohu. On a vu l'autre jour que lorsque Dieu a créé la terre, elle était merveilleuse. Il l'a mesurée. Tout a été planifié par Dieu. Il n'a pas créé un chaos. Il a dit qu'il ne l'ait pas créé comme un chaos. Si tu as une autre version que... Si on a une autre version, peut-être c'est différent. Dans la Bible du Semeur, il dit « Il ne l'a pas créé à l'état chaotique ». En anglais, il a trouvé aussi une version. Ouais, la Bible du Semeur dit « Il ne l'a pas créé à l'état chaotique ». En coréen, c'est quoi? C'est vide. Il n'y a rien dedans. Tu ne peux pas créer le vide, n'est-ce pas? T'as pas besoin de créer quelque chose de vide. Est-ce que tu peux créer une maison qui n'est pas là? Tu ne peux pas faire ça. Alors t'as pas besoin de créer dans ce cas. le mot grec, non, le mot hébreu, signifie tohu-bohu. Bien sûr, Dieu ne va pas créer le chaos. Il l'a créé pour qu'elle soit habitée. Mais que s'est-il passé? Dans Genèse, chapitre 1, verset 2, il est dit que la terre est devenue un chaos et que les ténèbres couvraient toute la terre. Puis il est dit que la terre entière était sous l'eau. Il faut voir cela. Retournons dans Genèse 1. C'est important. Parce que nous allons parler de la lumière. Pourquoi nous avons besoin de lumière? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu a créé. La terre devint informe. Quelle est la traduction en coréen? Chaos. Aussi en chinois. La Bible de Sommer aussi dit la terre était chaotique. Dieu ne va pas créer un chaos. Est-ce que tu crois qu'il a créé, que tu vas créer quelque chose de chaotique? Non, personne ne le ferait. Non, la terre devint un tohu-bohu. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et puis il est dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ce mot-là, se mouvoir, en hébreu, c'est comme une poule qui couve ses œufs pour donner la vie. Les œufs sont couvés. Ainsi l'Esprit de Dieu, au verset 2, ça commence par l'Esprit qui veut donner la vie à la terre. Pour les nouveaux frères et sœurs et pour les jeunes, j'aimerais vous montrer, si vous revenez à Ésaïe 14, dans Ésaïe 14, en fait, le Seigneur jugeait. Dans Ésaïe 14, le Seigneur juge. Au verset 1, le Seigneur juge le roi de Babylone parce que tout était si déchu, si déchu. Mais pendant qu'il juge Babylone, il nous donne un petit aperçu de ce qui s'est passé avant. Au verset 12. Te voilà tombé du ciel. Il ne parle pas du roi de Babylone, là. Maintenant, il utilise tout cet arrière-plan pour nous montrer ce qui s'est passé. Avant Adam et Ève, avant l'humanité. te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. C'est Lucifer, c'est l'archange. Il était sage. Il est appelé fils de l'aurore, le fils du matin. Puis quelque chose est arrivé. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du nord, du septentrion, de l'univers, là où habite Dieu. Tu peux t'imaginer cela? L'orgueil est entré dans son cœur. Je monterai sur le sommet des nues. Puis il est dit, je serai semblable au Très-Haut. Tu peux imaginer cela? Tu sais ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui? Chacun veut être Dieu, ils sont contre Dieu, ils veulent devenir Dieu. Ça a commencé avec Babylone. Le roi de Babylone a fait une grande statue et il a demandé à tout le monde de se prosterner devant cette statue. L'Empire romain, les empereurs se considéraient comme des dieux, comme Dieu. Même en Chine, Mao Tse-tung aussi. Il a détruit la Bible. Et il a écrit son propre livre rouge. Et regarde les gens aujourd'hui, ils veulent régner sur la terre. Regarde les globalistes. Chacun est comme un esclave et eux veulent régner. Pas très loin de votre pays, il y a aussi quelqu'un qui se prend pour Dieu. Vous le connaissez tous, n'est-ce pas? D'où vient cette idée? Ça vient du péché, de la nature de Satan qui est entrée dans l'homme. Le monde entier est ainsi. Le monde entier. Ils pensent qu'ils possèdent toutes choses. Ça, c'est un grand problème. C'est un grand problème. Ainsi, ici, à ce moment-là, l'archange Lucifer, le fils de l'aurore, le fils de la lumière, il a dit, je serai semblable à Dieu. Au Très-Haut. Mais Dieu a dit, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Maintenant, ceci est un aperçu. Dieu nous montre ce qui s'est passé. Continuons. Dans Ézéchiel 28, maintenant le Seigneur juge le prince de Tyr, la nation de Tyr. À ce moment-là, Tyr était le centre des affaires de cette culture. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé. Maintenant, il nous donne un indice de ce qui s'est passé à Satan, de ce qui lui est arrivé avant de devenir Satan. Ton cœur s'est élevé. et tu as dit, je suis Dieu. Je suis Dieu. Il dit, au sein des mers, je suis Dieu. Il dit, je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Puis Dieu dit, ô roi de Tyr, toi, tu es un homme et non Dieu. Tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Ici, on peut voir que le Seigneur nous conduit petit à petit à l'événement de ce qui s'est passé avant Adam et Ève. Il dit, voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de caché, de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Il parle là du roi de Tyr. Parce qu'à ce moment-là, Tyr était le centre du monde des affaires. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est un avertissement. Aujourd'hui, tu peux voir que tous ces gens riches, comme ton ancien boss, ton ancien chef, Bill Gates, tu sais ce que Bill Gates a dit une fois ? Je veux être la bête qui est 666. Tu peux imaginer cela ? Ces millionnaires, milliardaires, Rothschild, Soros, aux États-Unis. Ils sont si riches. Ils pensent pouvoir régner sur la terre. Et ils veulent réduire la population du monde à 5 millions d'habitants. N'es-tu pas heureux d'être hors de cette compagnie? Ils agissent comme s'ils étaient Dieu. Juste parce qu'ils sont milliardaires, c'est pourquoi au verset 6 il dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. En anglais il dit, tu prends ton cœur pour le cœur de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse et ils souilleront ta beauté. Au verset 9, en face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu ? Tu seras homme et non Dieu. Ainsi, allons verset 12. Maintenant, il ne parle pas du roi de Tyr. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Il ne se réfère pas au roi de Tyr. Le roi de Tyr n'est pas parfait. Il est loin d'être parfait. Tu étais plein de sagesse. parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Ce n'est pas le jardin d'Éden dans Genèse 1. C'est le jardin de Dieu, c'est l'Éden céleste. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. C'est pas la description de qui que ce soit, mais c'est presque comme la Nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste qui a toutes ses pierres. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Puis il est dit, tu étais un chérubin protecteur. Cela ne se réfère plus au roi de Tyr. Mais cela se réfère à cet archange magnifique, parfait et sage. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Qui peut être là-haut? Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. C'est étonnant. As-tu déjà lu ce chapitre, Chuchang? Tu sais de qui il parle? Il parlait de Satan, avant qu'il devienne Satan. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Vous vous souvenez, lorsque nous avons lu dans Job 38, lorsque Dieu a créé la terre, les anges ont été créés avant cela. Ainsi, les fils de Dieu, les anges, quand ils ont vu comme la terre était belle, ils se réjouissaient. Ça, c'était avant Adam. Parce que Satan est tombé. Il régnait sur la création de Dieu. Alors le jugement est venu. Et le Seigneur a détruit la création pré-adamique. Et la description est au verset 2. La terre devint un tohu-bohu. Et les ténèbres couvrait toute la terre. Et toute la terre était sous l'eau. Comme du temps de Noé, la terre a été détruite par le déluge. Dieu a promis à Noé, après cela, je ne détruirai plus la terre par le déluge. Que s'est-il passé? Il faut être impressionné que toute la terre, à ce moment-là, était dans les ténèbres à cause du jugement de Dieu, dans le chaos qui a été causé par Satan. Je ne vais pas entrer dans les détails. Mais il faut réaliser. Même il faut vous demander, y a-t-il des démons? Même les incroyants croient qu'il y a des démons. Lorsque Jésus était sur terre, il a chassé tant de démons. D'où viennent-ils? Dieu n'a pas créé les démons le septième jour. A-t-il créé les démons le sixième jour? Non. Cela veut dire, ce sont des esprits sans corps, des créations pré-adamiques. Mais je ne vais pas parler de cela. J'aimerais que vous voyiez tous qu'il y avait les ténèbres sur cette terre. Maintenant, je reviens à ce point. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas détruit Satan? Si tu avais été Dieu, Chuchang, qu'aurais-tu fait? Ne l'aurais-tu pas détruit? Est-ce que ça n'aurait pas été merveilleux? Est-ce que tu n'aurais pas fait cela? C'était pas le désir de Dieu, le plan de Dieu. Pourquoi pas? Parce que le plan de Dieu, c'est même avant la fondation de la terre, du monde, il avait choisi l'homme pour régner. Il avait prévu que l'homme règne. Et Dieu veut que l'homme regagne ce règne sur cette terre, sur le monde, qu'il veut qu'il le reprenne de la main de Satan. C'est pourquoi Satan fait de son mieux pour détruire l'humanité. Il faut voir cela. C'est un défi. Bien sûr que ce serait facile pour Dieu de détruire Satan comme une fourmi. Est-ce que tu as besoin d'une bombe atomique pour tuer une fourmi? Tu emploies juste ton petit doigt. Ce serait si facile que Dieu détruise Satan. Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Parce qu'il veut nous utiliser. Nous devons régner sur cette terre pour Dieu, par la vie de Dieu en nous. C'est pourquoi l'homme est très spécial. Parce que tu n'es pas juste une création. Il t'a créé à son image, selon sa ressemblance, afin que sa vie entre en toi, afin que tu ne sois pas seulement une créature, mais un fils de Dieu, un enfant de Dieu, né de Dieu. Alors, on peut vraiment régner sur la terre. C'est pourquoi nous attendons que le royaume vienne. Il faut apprécier pourquoi tu es sauvé, pas seulement sauvé, mais pourquoi tu es né de nouveau pour être un enfant de Dieu, pour hériter toute chose. Tu vas hériter toute chose. Bien sûr, tout appartient déjà à Dieu. Tout appartient à Dieu. Ah si, est-ce que ça ne suffit pas que tout appartienne à Dieu? Non. Dieu veut beaucoup de fils. Elle veut amener beaucoup de fils à la gloire. Pour régner avec Christ sur la terre. Mais l'homme doit recevoir la vie de Dieu en lui. Malheureusement, c'était un défi de laisser Satan venir en premier. Fais ce que tu veux d'abord. Penses-tu que Dieu ne savait pas que Satan allait entrer dans le jardin d'Éden pour tromper Adam et Ève? Bien sûr, il est Dieu, il le savait. Si tu étais Dieu, qu'aurais-tu fait? Ou tuer le serpent juste là? Mais ce n'est pas ce que Dieu veut faire. Dieu a un plan différent. Ainsi, Satan est entré en premier. Vous savez, dans Jean 8, le Seigneur parle de Satan en tant que le père du mensonge et le meurtrier, qu'il est meurtrier dès le commencement. C'est le trompeur du monde entier. Lisons Apocalypse, chapitre 12. Apocalypse 12, au verset 9. Il y a un grand dragon, un serpent ancien, appelé le diable et Satan, qui séduit toute la terre. Il trompe tout le monde entier. C'est pourquoi aujourd'hui, tu peux voir cela. Même dans les médias grand public, ils te mentent. C'est le séducteur du monde entier. Tu penses être si sage, mais il y a quelqu'un qui est un petit peu plus sage que toi. Il est le père des menteurs. C'est un expert dans le mensonge. Est-ce que tu crois que tu peux échapper à sa séduction, à sa tromperie? Personne ne peut échapper. Il est trompeur. Cet ancien serpent appelé le diable et Satan qui a créé le chaos. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Ils vont être précipités et bientôt. Et il est l'accusateur des frères. C'est l'accusateur. Et il est l'autorité des ténèbres. Le monde entier est dans les ténèbres. Tu ne le sais pas. Tu penses que tout est OK. Tu penses que tout est en paix, tout va bien. Est-ce que tu n'apprécies pas cette belle vue? Frère Kang, qui a dit que le monde entier était dans les ténèbres? Au moins cet endroit ici n'est pas dans les ténèbres. Bijay, tu as le sentiment d'être dans les ténèbres? Qu'en est-il de toi, David? Tu penses, oh, je suis dans les ténèbres ici? Non. Mais il parle d'une autre sorte de ténèbres. Dans 2 Corinthiens 4, Paul a écrit que ce diable, Satan, c'est le Dieu de ce monde qui a aveuglé l'intelligence de ceux qui ne croient pas. Si tu dis aux gens qu'ils sont aveugles, je ne pense pas qu'ils te croiront. Si tu es aveugle, qu'est-ce que ça veut dire? Tu es dans les ténèbres, tu ne vois rien. Physiquement, tu n'es pas aveugle, mais spirituellement, tu es aveugle. C'est les ténèbres. C'est une autre sorte de ténèbres dont la Bible parle. Seul Dieu est lumière, la vraie lumière. Si tu ne connais pas Dieu, si tu n'as pas sa vie en toi, tu seras dans les ténèbres. Lisons 2 Corinthiens 4. Verset 3. Si notre évangile est encore voilé, vous savez, un voile, c'est quelque chose qui est mis devant tes yeux. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. C'est une autre sorte d'aveuglement. Tes yeux physiques ne sont peut-être pas aveugles, mais les yeux de notre intelligence ne comprennent pas qui est Dieu. Je n'ai pas besoin de Dieu. Qu'est-ce que cela? C'est de l'aveuglement. Et qui t'a rendu aveugle? Le Dieu de ce siècle. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence de ceux qui ne croient pas, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, afin que cette lumière ne brille pas en eux, qu'elle ne pénètre pas. Si tu es aveugle, même s'il y a du soleil, tu ne le vois pas. Ça, c'est l'aveuglement de l'intelligence, c'est les ténèbres. Et ceux qui ne croient pas, ils pensent qu'ils sont OK. Ils pensent qu'ils sont bien. Mais ils sont trompés par le serpent, le trompeur de ce monde, le Dieu de ce siècle, qui a aveuglé l'intelligence des incrédules. Et au verset 6, quand Paul écrivait cela, il avait certainement Genèse 1 en vue. Donc, dans 2 Corinthiens 4, verset 6, il dit, « Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres. » Ça, c'est dans Genèse 1. A fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Où est-ce que Paul a reçu cette révélation merveilleuse de Genèse 1? C'est pourquoi aujourd'hui tu peux dire, tu peux parler aux gens de Dieu, mais ils diront, qui est Dieu? Où est Dieu? Je ne connais pas Dieu, je n'en ai pas besoin. Il n'y a pas de Dieu. Vraiment, il n'y a pas de Dieu? C'est parce que l'être humain déchu avec le péché dans la chair. Et il est parlé du Dieu de ce siècle qui les a aveuglés. Si tu mets un voile sur mes yeux, je ne peux rien voir. Tu dis Bijay est dans la salle, mais où il est? Il n'y a pas, Bijay n'est pas là. Je ne le vois pas. C'est parce que je suis dans les ténèbres. Romain dit, si tu vois cette création merveilleuse, merveilleuse, tu dois admettre qu'il y a un créateur. J'ai vu une montre religieuse en venant ici. Vous savez ce que c'est une montre religieuse? Je plaisantais. Cette montre religieuse, je me demande à quoi, pourquoi elle prie. En anglais, c'est une montre qui prie. Les gens sont dans les ténèbres. Si tu n'as pas la vie de Dieu, ton intelligence est aveuglée par le Dieu de ce siècle. C'est par un soi-disant autre Dieu, c'est Satan, c'est le Dieu de ce siècle, du cosmos. Et Satan, il y a tant de gens qui, tant de choses qui détournent les gens de Dieu, donc il faut le remplacer. Sinon, si les gens n'ont rien, ils ne sont pas contents, pas satisfaits, alors ils chercheront Dieu. Ainsi, le Dieu de ce siècle, Satan, a préparé tant d'autres choses pour remplacer Dieu. L'ordinateur. Apple. Est-ce que tu n'aimes pas? Qu'en est-il de ton téléphone portable? Est-ce que tu as le dernier modèle? Est-ce que tu voudrais l'avoir? Il faut employer tout ton temps. Afin d'avoir ce dernier téléphone, ce dernier modèle, iPhone 14, avec cet appareil photo si bon. Est-ce que tu ne voudrais pas l'avoir? Tu veux avoir tellement de choses. Une belle voiture, de choses très belles. John ne peut pas avoir un véritable FA-18, mais il en a un en Lego. Est-ce que ça satisfait ton cœur? Vous savez, nous sommes trompés par celui qui trompe le monde entier. Il y a tant d'endroits si beaux. Mais quand tu vois la création si belle, tu dois voir le Créateur. Parce que dans Romains, il est dit que tu n'auras pas d'excuse parce que tu as vu la création. Qui l'a faite? La science te dira, personne ne l'a fait. C'est magique, c'est juste comme ça, c'est arrivé par lui-même. Si tu regardes les fleurs si belles, la forme, la couleur, l'odeur, le parfum. Et il y a tant de sortes différentes, des milliers d'espèces différentes. Personne n'a fait cela? C'est venu comme ça. Et regarde-toi. Tu es un homme merveilleux, si capable. Tu comprends tant de choses. Ou tu préférerais être un chien ou un singe? Ton intelligence est bien plus extraordinaire qu'un ordinateur. Combien de gigabytes as-tu dans ta mémoire? Tu as peut-être à peu près 30 ans? Presque 30 ans. Ainsi, ta mémoire doit déjà être pleine. Il n'y a plus de stockage possible. Non, elle est illimitée, presque. Est-ce que tu as besoin d'ajouter des gigabytes? Tu n'en as pas besoin. Tes yeux sont bien meilleurs qu'un appareil photo. La mise au point est automatique. Si tu vas dans une chambre sombre, tes yeux changent directement la mise au point. Tu penses que personne n'a prévu cela? Si je te dis, Chuchang, que personne n'a inventé cet appareil photo, et ça a juste été toc 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 comme ça, et voilà, c'est arrivé. Est-ce que tu crois cela? Qu'est-ce que tu penses que je suis? Tu penseras que je suis complètement fou. Tu penseras que cet homme est insensé. Fou. Mais comment ça se fait que si tu regardes ce jeune homme, BJ, personne ne l'a créé. Après 1 million d'années, un gorille, un singe s'est développé. Qui l'a changé? L'ADN. Tu crois cela? Tes yeux sont bien plus merveilleux qu'un appareil photo, plus précis. Est-ce que de jour en jour, tu dois charger ta mémoire? Oh, il faut que je me branche maintenant. Non. Et tu penses que personne n'a fait le plan pour cela? Prévu cela? Comment ça se fait que les gens... J'aimerais pas utiliser le mot stupide, mais ils ne sont pas raisonnables. Ils sont aveuglés. Et ils croient les mensonges de Satan. Tu es si capable. Qui a fait le premier enregistreur? Tu as deux oreilles. Où entre la musique une fois que tu l'as entendue? Tu commences à jouer ce chant. J'ai un très bon enregistreur ici. J'ai beaucoup de sœurs. Et elles sont toutes enregistrées en moi. Et tu as un haut-parleur merveilleux. Tu es une créature merveilleuse. Et tu penses que personne ne t'a fait? Aimerais-tu être une pieuvre avec beaucoup de tentacules? Bien sûr que non. Chaque partie de ton être fonctionne si bien. Personne ne t'a créé? Combien d'années a-t-il fallu, John, pour obtenir l'intelligence artificielle? Pour concevoir l'intelligence artificielle, des centaines d'années. Mais lorsque ton fils est né, il est né avec toutes les capacités. Directement dans ce petit bébé. Qui a conçu cela? Personne? Il y a tant de capacités. Tu peux faire tellement de choses. Parce que tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais parce que nous sommes dans les ténèbres, nous ne croyons pas en Dieu. Non, personne ne m'a créé. Mon arrière-arrière-arrière-grand-père était un singe. Est-ce que tu aimes dire cela? Est-ce que tu ne connais pas Darwin? Même l'histoire nous dit que sur son lit de mort, il s'est rétracté. Mais c'était trop tard. Les générations après cela continuent à croire qu'il a raison. Regarde toute la création. Comment ça se fait que le soleil se lève tous les matins? As-tu le moindre doute que le soleil ne se lève demain matin? C'est si précis et automatique. Le mouvement des planètes. Ne parlons pas des autres systèmes, mais simplement notre système à nous, notre système solaire. Tout est selon les lois de la création de Dieu. Sinon, tu n'aurais pas une montre. Imagine que le soleil dise « Non, je ne me lève pas aujourd'hui, je me repose. » Ou « Je retarde de 2 heures. » Est-ce que c'est possible? Vous savez tous. Vous connaissez notre frère en Allemagne. C'est un mathématicien. Il donne des leçons à l'université. Il a eu de grands honneurs. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il a dit, un vrai mathématicien doit croire en Dieu à cause de la précision. Tout est si précis. Ça ne peut pas être du hasard. C'est pourquoi Paul dit, il n'y a pas d'excuse pour ne pas croire en Dieu. C'est impossible. Regarde, tout ce que l'homme a fait sur la terre, tout a été créé avec précision. Si toi, tu peux créer quelque chose avec tant de précision, qui a créé l'univers avec une telle précision? Chaque fois que je regarde cette création merveilleuse, je loue Dieu. Je dis, Seigneur, tu es le plus grand artiste de tout l'univers. C'est si beau, si merveilleux. Mais le diable, le trompeur, va te dire, il n'y a pas de Dieu. Alors qui a tout créé? Qui a créé tout cela? Et la Bible dit que tout ce que Dieu a créé est selon son espèce. Tu peux identifier chaque chose, même chaque fruit, chaque légume que tu manges. Et il n'y aurait pas de Dieu? L'homme est dans les ténèbres. Pourquoi est-ce que je dis tout cela? Parce que ça, c'est les ténèbres dont la Bible parle. Et le problème est que tu penses être si sage, mais tu es dans les ténèbres. Et maintenant, ces gens disent qu'il ne faut pas manger des vaches, il ne faut pas manger du bœuf. Parce que tu causes la pollution. Tant de vaches causent la pollution. Alors, qu'est-ce que tu vas manger? Est-ce que tu veux manger des insectes? Ils disent, il faudrait manger des insectes. Ils ont déjà commencé en Ontario, au Canada. Ils ont fait manger des insectes aux enfants. Qu'en est-il des cafards? Tu veux manger des cafards? Je t'invite. Je te fais un sandwich de cafard. Qu'est-ce que tu penses que je suis si je t'invite à manger un sandwich au cafard? Est-ce que tu viendrais? Tu m'enverras dans une clinique psychiatrique. Cette élite dit cela. Tout est OK. Mais qu'est-ce que tu veux dire, tout est OK? Tu n'es pas d'accord avec eux, ils te tuent. Qu'en dis-tu? Ça, c'est les ténèbres. Et il y a une telle tromperie dans ces ténèbres parce que la Bible parle d'une sorte différente de ténèbres qui couvre toute la terre. Le Dieu de cet âge a aveuglé l'intelligence de ceux qui ne croient pas à l'Évangile pour être sauvés. Pardonnez-moi d'utiliser tant de temps pour vous décrire ces ténèbres. Parce que vous dites, non, je ne suis pas dans les ténèbres, j'ai l'électricité. C'est pourquoi dans l'évangile de Jean, laissez-moi revenir à l'évangile de Jean, au chapitre 1. Avant d'aller à nouveau dans 1 Jean. Mon fardeau. Et le fardeau de Dieu, c'est que nous comprenions tout cela. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, parce que Dieu a parlé. Il était au commencement avec Dieu, c'est-à-dire Christ qui était la parole. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue ou ne l'ont point saisie. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, Jean-Baptiste. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous, par le témoignage de Jean, croient. Il, Jean-Baptiste, n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. C'est la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Malheureusement, le monde était infesté de la nature pécheresse de Satan. Ainsi, le verset 10 dit : elle était dans le monde, le Seigneur Jésus est venu dans le monde. Le monde a été fait par elle, par lui. Et le monde ne l'a point connu. Est-ce que ce n'est pas triste ? Elle est venue chez les siens, et même les siens, le peuple choisi de Dieu, ne l'a point reçu. Ils ne l'ont point reçu. Est-ce que ce n'est pas triste ? Le monde a été créé par lui, et le monde ne l'a point connu. Et il est venu à son propre peuple, les Juifs qui étaient censés connaître la Bible. Et les siens ne l'ont point reçu. Pas seulement ils ne l'ont point reçu, mais ils l'ont fait mourir. Mais ici, il y a une bonne nouvelle. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que tu veux pas être un enfant de Dieu? Qui ne désire pas être enfant de Dieu? Qu'en est-il de toi, Abidjé? Je suis un enfant de Dieu. Comment es-tu devenu un enfant de Dieu? J'ai pensé que tu étais fils de tes parents, à Long Beach, en Californie. Mais je suis née de nouveau. Quoi? Combien de fois peux-tu naître? Physiquement, c'est une fois et spirituellement, une fois. La première fois, c'est que tu es née sur cette terre. Mais la deuxième fois, c'est que tu es née de Dieu, d'en haut. Es-tu satisfait d'être juste né de tes parents? En tant qu'homme pécheur? Avec tant de choses injustes? Et combien de temps peux-tu vivre en tant qu'homme sur cette terre? 1 million d'années? Non. 200 ans. Combien d'années veux-tu vivre sur terre en tant qu'homme ? La première naissance est très très limitée. Mais la Bible dit que chaque homme doit mourir un jour. Et ne pense pas qu'après être mort, c'est la fin. Non, Hébreux 9 nous dit qu'après cela, vient quoi ? Le jugement. Ainsi, la bonne nouvelle au verset 12, c'est « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, tu dois le recevoir. » Ça dépend de toi. À tous ceux qui l'ont reçu, c'est ton choix. C'est ton choix. Ne force jamais personne à croire au Seigneur. Ne fais pas cela. Mais tu dois leur montrer la vérité. Tu dois leur donner la possibilité. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ceux qui croient en son nom. Ceux qui sont nés, quoi ? N'étais-tu pas déjà né ? Ça, c'est une autre sorte de naissance. Ils sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tu es né de Dieu. L'homme est fait en trois parties. Tu peux voir l'extérieur. Je sais que c'est John Yao, parce que c'est lui, il lui ressemble. Mais connaître John Yao, tu dois le connaître plus profondément dans son âme. Bien que je sois son beau-père, je ne sais pas à quoi il pense. Mais il y a une partie encore plus profonde dans l'homme, qui est l'esprit de l'homme. Mais l'esprit de l'homme est mort, parce que l'homme a pris de cet arbre de la mort. C'est très sérieux. C'est très grave. Tu dois considérer cela parce que tu es un homme. Ainsi, tu dois naître de Dieu. Ils sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et ayant cette vie en toi, alors tu connaîtras Dieu. Sinon, tu ne peux pas connaître Dieu. Allons au chapitre 3. Le chapitre 3 nous dit, raconte une histoire merveilleuse. Verset 1. La Bible est écrite non pas comme une théologie ou une doctrine, mais en tant qu'histoire. C'est quelque chose qui s'est vraiment passé. Et même, on connaît le nom de cet homme. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens. Ça veut dire que c'est quelqu'un d'éduqué, nommé Nicodème, un chef des Juifs. Il enseignait même. Cet homme vint à Jésus auprès de nuit. Il était presque minuit. Pourquoi ? Il avait peur d'être vu. Parce que tous sont contre Jésus. Et cet homme qui est un enseignant des Juifs avait peur de ce que les autres allaient penser. Ainsi, près de minuit, on ne sait pas à quelle heure c'était, mais en tout cas c'était de nuit, afin que personne ne le voie, et il est venu vers Jésus. Et il lui a dit, « Rabbi, ça veut dire enseignant. il appelle Jésus enseignant. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Écoutez, même un juif, un pharisien, il savait que Jésus était venu de Dieu, mais il ne voulait toujours pas le recevoir. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. À moins que Dieu ne soit avec lui. Et si Jésus lui répondit, en vérité, ça veut dire vraiment, je ne te mens pas, je te le dis. Si un homme, quelqu'un, n'importe qui, ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut même pas le voir ni connaître le royaume de Dieu. Parce que c'est dans une autre sphère. À moins qu'un homme ne naisse de nouveau. C'est pourquoi BJ a dit qu'il était né de nouveau. Et Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Je suis déjà vieux. Est-ce que je peux naître une deuxième fois? Personne ne pouvait comprendre cela. Si j'avais été Nicodème, je n'aurais pas compris non plus. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Comment es-tu né de nouveau, Bidjé? Tu dis que tu es né de nouveau. Est-ce que tu es rentré dans le sein de ta mère une deuxième fois? Alors, comment peux-tu être né de nouveau? Il en est parlé plus loin dans le chapitre. Jésus lui donne la réponse. À nouveau, il répond, en vérité, en vérité. Ça veut dire, c'est vraiment la vérité. Je te dis la vérité. Il n'y a aucun doute. Si un homme ne naît d'eau, elle a dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, de Saint-Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est une autre sphère. C'est une sphère plus élevée que le royaume des hommes. Il faut une autre vie, une autre sorte de vie pour entrer dans le royaume de Dieu. Il faut que tu sois né de nouveau. Est-ce qu'un chien peut entrer dans le royaume des hommes? Est-ce que tu as déjà vu dans ta compagnie un chien qui travaille là? Non. Peut-être c'est un chien de garde. Mais pour entrer dans le royaume des hommes, tu as besoin de la vie humaine. Ainsi, le chien doit naître de nouveau, mais c'est impossible. Mais toi, si tu veux entrer dans le royaume plus élevé de Dieu, tu as besoin d'une autre vie. Tu dois naître une autre fois. Et c'est possible parce que Dieu a créé l'Esprit en toi pour que le Saint-Esprit puisse entrer en toi. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, d'eau et d'esprit? Le Seigneur parle de l'eau du baptême, parce que le baptême est un signe que tu ôtes le vieil homme et que tu reçois la vie de Christ dans ton esprit. Ainsi, le baptême, c'est qu'on est baptisé dans sa mort et qu'on reçoit Christ pour marcher en nouveauté de vie. C'est ainsi que tu es fils de Dieu. Tu es fils de tes parents, oui, encore. Mais ça, c'est la naissance terrestre. Mais maintenant, tu es aussi, ce qui est bien mieux et plus élevé, un fils de Dieu. C'est ta destinée. Réfléchis-y. Puis le Seigneur dit, verset 6, ce qui est né de la chair, ça c'est de tes chers parents, est chair. Et ce qui est né de l'esprit, le Saint-Esprit, est esprit, ton esprit humain. En Corée, vous n'avez pas de lettres majuscules ou pas. Mais en français, on a ce qui est né de l'esprit avec une majuscule est esprit. Avec un petit e, et ça, c'est notre esprit. Parce que tu es une image spéciale de Dieu. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a soufflé dans l'homme son souffle de vie. Et l'homme est devenu une âme vivante. Où est-il parlé de l'esprit de l'homme? Cherche dans ta mémoire. David, Proverbe 20, verset 27. Est-ce que tu peux nous lire cela? Proverbe 20, 27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Il parle de l'esprit de l'homme qui est une lampe de l'Éternel. Dans Darby, dit « L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. » L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. C'est une lampe. À quoi sert une lampe? À donner la lumière. Il sonde toutes les profondeurs du cœur. Si tu n'es pas né de nouveau, il n'y aura pas de lumière en toi. Tu resteras dans les ténèbres. Et dans Job, il est dit qu'il y a un esprit dans l'homme et que le souffle du Tout-Puissant lui donne l'intelligence. Je vous ai donné toutes ces références pour vous montrer ce que signifient les ténèbres. Et rien ne peut ôter ces ténèbres, si ce n'est la vie de Dieu qui est entre nous. Alors, tu as la lumière de la vie. On va dans Jean 8. Verset 23. On va commencer au verset 23. C'est un verset qui correspond. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est une parole sérieuse. Le Seigneur est d'en haut. Dieu a créé l'univers. Et il est venu. Il est venu en tant qu'homme pour nous sauver. Mais nous, nous sommes d'en bas. Ainsi, le Seigneur continue en disant, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Au verset 32. Et si on continue à lire, le Seigneur leur a dit, je suis la lumière du monde. Cherchons ce verset. Où est le verset? Chapitre 9, verset 5. Jean 9, verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. La lumière de la vie. Nous croyants pouvons témoigner à tout le monde que nous marchons dans la lumière, pas dans les ténèbres. Nous sommes différents. Dans un sens, quand tu es né de nouveau, tu es d'en haut. Tu es dans un autre royaume. Tu es dans un autre royaume. Le Seigneur dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Est-ce que tu aimes marcher dans les ténèbres? Si tu marches dans les ténèbres, tu vas trébucher facilement. Spécialement si, comme moi, tu as 80 ans. Ainsi, si tu reviens à 1 Jean, le premier message, c'est que Dieu est lumière. C'est une lumière d'en haut. C'est une lumière différente. Comme la lumière du soleil est une lumière différente d'une lumière électrique. Le soleil est si fort, sa lumière est si forte que si tu le regardes, tu vas devenir aveugle. Paul nous dit que Dieu habite une lumière inaccessible. Nous, chrétiens, ne devons pas marcher dans les ténèbres. En fait, si vraiment tu as reçu cette lumière merveilleuse en toi, tu ne vas pas marcher dans les ténèbres. Je ne dis pas que tu seras parfait, complètement, directement. Mais si tu fais quelque chose de faux, la lumière brillera en toi. Ta conscience va réagir et tu te repentiras et le Seigneur te lavera. Et plus tu crois dans la vie, plus tu seras une personne qui marche dans la lumière. Ne marche pas dans les ténèbres. Ce n'est pas bon. Ainsi, on va rapidement revenir au résumé. Dieu est lumière. C'est l'évidence de la vie en toi. La première chose, c'est la lumière. Et en lui, il n'y a pas de ténèbres. J'ai mis une référence ici, à 1 Timothée 6,16. Jésus-Christ est la lumière de la vie, la lumière du monde. En rentrant à la maison, lisez tous ces versets. Vous serez impressionnés que cette lumière est si merveilleuse et si importante, si nécessaire pour notre vie chrétienne. La parole de Dieu est une lumière qui brille dans un lieu sombre. Dans 2 Pierre 1,19. Le psaume 119 nous le dit. Lisez-les. Il y a encore beaucoup d'autres versets. Bien sûr, je ne peux pas tous les écrire. Ce n'est pas nécessaire. Et nous, les chrétiens, ayant reçu cette vie merveilleuse en nous, deviendrons des fils de la lumière, des enfants du jour et la lumière du monde. Vous savez, c'est la sagesse de Dieu. Lorsqu'il a créé la lumière, il a séparé la lumière des ténèbres. C'est pourquoi il y a le jour et la nuit. Les gens méchants, pêcheurs, la mafia, ils font tout pendant la nuit. Ainsi, au commencement, il y a le jour et la nuit. Mais spirituellement, quelle est la longueur de ton jour? Est-ce que ton jour est plus long que ta nuit? Est-ce que ta nuit devient de plus en plus courte ou de plus en plus longue? Que dit la parole dans Apocalypse 21 au sujet de la Nouvelle Jérusalem? Il n'y a plus de nuit. Il n'y a pas de nuit là. Cela veut dire, louer le Seigneur, que toutes les ténèbres sont parties. Ainsi, nous, en tant que chrétiens, lorsque nous croissons dans la vie, les ténèbres spirituelles doivent décroître de plus en plus. Et ton jour spirituel va devenir de plus en plus long. La nuit sera plus courte. En Europe, si tu vas en Finlande, par exemple, en été, la lumière, le jour est très très long, même à 2h du matin. À 2h du matin. Eh bien, c'est comme le jour, même à 3h. En été? Non, en hiver, quand tu vas là-bas, le jour devient très court et la nuit est très longue. Maintenant, spirituellement, quelle est la longueur de ton jour? Ou quelle est la longueur de ta nuit, PJ? Est-ce que ta nuit devient plus courte et ton jour plus long? Ou moitié-moitié? C'est merveilleux d'être dans la Nouvelle Jérusalem, parce que là, il n'y aura plus de nuit. Ils n'ont pas besoin de lumière du soleil ni de la nuit, parce que Dieu lui-même est la lumière dans la Nouvelle Jérusalem. En Christ, Christ est la lampe et toute la ville. La Nouvelle Jérusalem, c'est un chandelier. Nous disons que nous sommes la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste. C'est juste David. À Feingen, vous dites que vous êtes quoi? La Jérusalem céleste. Ainsi, quelle est la longueur du jour là et quelle est la longueur de la nuit? Ce n'est pas juste une parole, mais ça doit être la réalité. Dieu est lumière. Et en lui, il n'y a pas de ténèbres, aucune ténèbre. Que le Seigneur ouvre vraiment nos yeux. Donc, dans le résumé, nous devons marcher dans la lumière en tant qu'enfants de lumière. Nous devons être sans tache, sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Portant la parole de vie, brillant comme des luminaires dans le monde. Tout ça, c'est dans la Bible, dans Philippiens 2. Prenez garde que la lumière qui est en vous en nous ne soit pas ténèbres. Parce que c'est possible que nous, chrétiens, marchions dans les ténèbres. Puis dans 1 Jean, chapitre 2, versets 9 à 11, celui qui est son frère est dans les ténèbres. Et celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Puisqu'on est dans 1 Jean, on va lire ça. Jean 2:9-11. Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Ça, c'est les ténèbres spirituelles. Regarde parmi les chrétiens, il y a tant de problèmes. Pourquoi? Parce que nous sommes encore dans les ténèbres. Celui qui est son frère est encore dans les ténèbres. Il ne parle pas à des incroyants, il parle à des chrétiens, à nous. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres. Il ne sait pas où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Quelles sont ces ténèbres? Il ne parle pas de la lumière naturelle. Il parle des ténèbres spirituelles. Où vas-tu? Quelle est ta direction? Quel est ton but? Est-ce que tu veux être un homme d'affaires très plein de succès? Est-ce que tu veux être comme Bill Gates? Si ça c'est ton but, tu vas dans la mauvaise direction. Parce que tu es dans les ténèbres. Tu es sur un faux chemin. parce que la fin de tout cela, ce sera la destruction. Il me reste 5 minutes. Lisons encore un verset. Je suis désolée d'avoir cité tant de versets. Alors dans 2 Pierre, chapitre 3. Si tu marches dans n'importe quelle direction dans ce monde, c'est tout des fausses directions. Parce que tous les chemins mèneront à la destruction. Les gens disent que tout chemin mène à Rome. Peu importe quel chemin t'amènera à Rome, ce sera la destruction finale. Que dit Pierre ? Verset 5, juste le début. Il veut l'ignorer, en effet, que les cieux, des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Ça, c'est dans Genèse. Chapitre 1, versets 1 et 2. Et ensuite, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Ça, c'est l'histoire de Noé. Puis, mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Ça, c'est la destination finale de toutes les directions que tu prends aujourd'hui dans le monde, parce qu'il y aura un jugement pour le monde. Verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Ça, c'est la direction, le résultat final de tous les chemins. Ça semble merveilleux, mais à la fin, tout périt, sera détruit à cause du jugement. La destinée de tout dans ce monde est déjà écrite. Ainsi, pourquoi le Seigneur n'est-il pas encore venu ? Verset 9, il faut lire le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ça, c'est la miséricorde du Seigneur. Il donne à toute l'humanité une chance de se repentir, de se tourner vers lui. Ainsi, que devons-nous faire ? Versets 11 et 12. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Verset 13. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Et 14. C'est pourquoi, bien aimé, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tache et irréprochable dans la paix. C'est pourquoi on doit recevoir cette lumière de la vie. Ne dis pas juste, je suis sauvé, mes péchés sont pardonnés. Oui, bien sûr, tes péchés sont pardonnés. Mais il y a beaucoup plus. Tu dois être un chrétien qui marche dans la lumière et pas dans les ténèbres. Parce que nous savons quelle est la fin de toute chose. Je ne dis pas, Chuchang, que tu dois laisser ton travail. Mais ça, c'est seulement pour avoir de quoi vivre. Ce n'est pas ton but. Tu n'investis pas tout là-dedans, et au point d'oublier le Dieu vivant. Non. Tu dois être sage. Dieu n'est pas si simple, ce n'est pas juste un livre, une littérature quelconque. Non, c'est la parole de Dieu, la parole vivante. Tu dois la croire et accomplir cette parole, pas juste l'écouter, comme dit Jacques. Ça ne veut pas dire que tu ne fais rien d'autre et que tu deviens un pasteur ou un enseignant de la Bible. Un enseignant de la Bible. Mais tu connais le Dieu vivant. On a un but différent. On attend le retour du Seigneur dans son royaume. On veut hériter le royaume et régner sur les nations. Je veux vous rappeler encore une fois, il veut faire de nous des rois et des sacrificateurs, et nous régnerons sur cette terre. Nous serons des héritiers avec Christ, parce que tu es un enfant de Dieu et tu hériteras tout ce que Dieu a. Qui va hériter tout ce que ton père a? Pourquoi toi et pas moi? Frère Park, donne-moi tout l'héritage. Pourquoi tu le donnes à ton fils? Parce que c'est ton fils. Et moi pas. Le fils héritera tout ce que le père a. Nous serons héritiers avec Christ. Parce que Christ, en tant qu'homme, sera héritier de toutes choses. Et nous hériterons avec lui. Pour hériter tout. Pas juste un salaire. Ou 5000 won par année. 500 000 won par année. Non. Tu vas hériter tout. Louez le Seigneur. Héritier avec Christ. C'est ce que la Bible dit. Qu'est-ce que tu veux? Frère Song. Ton affaire n'est rien en comparaison de ce que tu vas hériter avec Christ. Ça, c'est ce que la Bible promet. C'est ce que Dieu dit. La parole de Dieu est réelle.